Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire, là.
C'est vraiment un avis, ce film.
Vous voyez, c'est tout à fait bouleversifié.
Cinéma! Cinéma!
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde!
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel.
Absolument.
Tous les jours, on en a plein les yeux. T'es là, ouf.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Le Comptoir du Festival, la déclinaison cannoise du Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique, uniquement sur Transistor. Et pour ce 10e numéro, on est au studio avec le collègue et néanmoins ami Aubry. Bonjour Aubry, comment tu vas en ce bon mois de juillet ?
Bah écoute, ça va, il fait chaud, horriblement chaud, atrocement chaud, même si ces derniers jours c'est un peu retombé. Et c'est toujours un plaisir de revenir à ce micro pour continuer à parler des films cannois. Et Dieu sait qu'en plus on va parler de films réjouissants et qualitatifs aujourd'hui.
Effectivement, puisqu'aujourd'hui on prolonge notre promenade loin de la compétition, promenade entamée il y a quelques temps avec les deux épisodes consacrés à Cannes Classics, donc l'interview de Gérald Duchaussois et puis l'épisode On aime Cannes Classics, et on va s'aventurer sur les terres moins balisées de Cannes 2026, des pas de côté, donc hors de la compétition, mais aussi sur un plan thématique avec des films s'intéressant à des communautés ou des personnages plus marginaux. Avec un premier film aussi, et puis avec les films qui n'ont pas été sélectionnés par les équipes de Thierry Frémaux et Thierry Frémaux, mais par les équipes des sélections parallèles, que sont La Quinzaine des cinéastes et La Semaine de la critique. En bref, au programme du jour, quelques pas de côté donc, avec Benimana, Je vois des immeubles tomber comme de la foudre, Irish Travelers et Congo Boy. L'occasion aussi pour nous de dire qu'il y a quelques films dont on ne parlera pas à cette antenne, déjà parce que pour les roasts, eh bien, Aubry et Claire, vous avez eu L'être aimé, et moi j'ai eu Vittorio De Sica, La Vita Incena. Ensuite, parce qu'on se serait quand même vite et juste énervé ou ennuyé à parler du dégel de Victorian Psycho ou de L'objet du délit. Bref, on est donc en juillet, on l'a dit, le temps passe plus mal que bien, on rêve de perles de pluie dans le studio un petit peu chauffé de Transistor. C'est parti. Et on commence, Aubry, avec ta chronique d'un des films présents au palmarès du mois dernier, du même de mai dernier, un film récompensé par le jury de Monia Chokri, qui attribuait la caméra d'or au meilleur premier film de tout Cannes. Cette année, c'est donc le film rwandais Benimana de Marie-Clémentine Doussabé-Jambo qui a succédé au Gâteau du Président l'année dernière, qui était un film irakien. Ce film était présenté dans la sélection Un certain regard, donc en sélection officielle du Festival de Cannes. Et Aubry, si je ne m'abuse, tu étais à sa première mondiale dans la salle de Bussy.
Exactement, et du coup Benimana c'est un premier film, enfin en tout cas un premier long qui a été, comme tu l'as dit, dans la sélection Un certain regard et qui est réalisé par Marie-Clémentine Doussabé-Jambo et c'est pour le coup je trouve un des films marquants et même un des moments marquants de ce festival à tout plein de titres. D'abord parce que un film rwandais est signé d'une réalisatrice rwandaise, c'est une première dans l'histoire du Festival de Cannes. Ensuite, parce qu'il était donc présenté en première mondiale, en présence de l'équipe du film, mais aussi de l'ambassadeur du Rwanda en France et de la ministre de la Culture rwandaise. Et enfin, qu'il a reçu à l'issue du festival aussi, comme tu l'as dit, la caméra d'or qui récompense le meilleur premier film, donc, mais aussi le prix Fipreski, qui est le prix de la Fédération internationale de la presse cinématographique. On peut aussi dire que c'est avant tout et surtout un premier film très impressionnant, en tout cas moi je trouve. Pour le vous résumer en gros l'enjeu de Benimana, c'est un film qui se passe dans l'après-génocide rwandais, qui se concentre en fait sur les tribunaux du génocide et sur la question du pardon. Plus précisément, on va suivre des petits groupes en fait, familiaux, essentiellement féminins. Donc c'est des mères, des filles, des tantes, des sœurs, des grand-mères aussi. Et en fait, on va avoir tous leurs points de vue différents qui coexistent, qui parfois s'entrechoquent et qui cherchent aussi à se comprendre, notamment... à ce titre-là, le personnage principal du film est une jeune étudiante qui n'a pas connu le génocide, qui est de la génération d'après, et qui doit vivre avec à la fois sa mère qui semble cacher tout un passé traumatique derrière le pardon un peu expéditif des criminels qui sont jugés, et de l'autre côté, sa tante, qui, elle, pour le coup, est atteinte du VIH, et qui garde de façon très explicite, mais même jusque donc dans cet état de santé, un trauma très très, très fort du génocide. Et donc en fait elle doit jouer avec les deux, et à travers cette figure là jeune et qui n'a pas connu le génocide, le film traverse la question en multipliant les pas de côté du pardon et de savoir, à travers ces tribunaux qui en fait ont encore lieu des années après les faits, de s'il faut pardonner des gens qui sont les voisins, parfois même des membres de la famille, des amis, pour des massacres qui ont été d'une violence sans nom. Et je trouve qu'à cet endroit-là, en fait, le film arrive à ne pas juste être un film à sujet. C'est-à-dire que on aurait envie de dire qu'à cet endroit-là, le sujet est tellement, important que s'il est bien traité, ça pourrait presque suffire au film. Et je trouve qu'en fait, le film va encore plus loin parce que Marie-Clémentine Doussabet-Jambeau, je trouve qu'elle a une mise en scène assez impressionnante. Elle expérimente tout plein de trucs sur la manière de filmer les espaces, les paysages. Il y a plein de coupes sur les paysages rwandais à l'aube, au crépuscule, mais aussi en pleine journée ou en pleine nuit, qui en fait viennent à la fois faire du repos dans l'intrigue et dans des scènes un peu plus tendues. Et en même temps, juste relier toute cette histoire à la terre et à l'espace, au territoire rwandais tout simplement, à savoir que la violence qui se joue encore à ce moment-là dans les discussions, dans les débats juridiques, enfin des tribunaux, mais aussi juste dans le débat de savoir sur est-ce qu'il faut pardonner et essayer de continuer à vivre, de voir comment on peut continuer à vivre ensemble, ces plans-là, ils viennent relier tout ça au fait que tout ça se passe sur un même territoire et au fond le territoire d'un même et unique pays, quoi. Donc je trouve qu'elle fait ça très bien. Il y a une manière de filmer les espaces clos aussi, les chambres, qui est assez dingue. Il y a beaucoup de très très beaux plans, une lumière assez folle qui met en fait en valeur toute une forme de spectralité de ces espaces là c'est-à-dire que c'est des espaces qui sont trop vides à chaque fois, où on sent qu'il y a un manque qui aspire presque, dans le sens où on voit par exemple la chambre de la tante de la personnage principale, et on a toujours, à la fois c'est un endroit un peu insalubre, un peu mal rangé, pas très bien éclairé et tout, et en même temps dans la manière dont c'est cadré, dans la manière dont la lumière entre en fait dans cette pièce là on sent toute une espèce de poids qui n'est pas présent à l'écran, qui est quelque chose d'assez fantomatique, mais qui pèse quand même sur cet espace-là, et du coup sur la scène qui s'y passe. Donc pour toutes ces raisons-là, entre autres, et puis juste par la tenue de son scénario, de sa mise en scène, le jeu de ses actrices, qui est vraiment, vraiment chouette pour le coup. Je me demande s'il n'y en avait pas une qui avait été récompensée, je sais plus, il faudrait vérifier. Mais pour toutes ces raisons-là, je trouve que Benimana, c'est un très grand premier film, et que... moi j'avais... j'avais pas forcément pensé au fait qu'il a la caméra d'or. C'est vrai qu'on s'attendait à ce que ce soit la Gradiva de Marine Atlan par exemple, et je trouve que c'est vraiment un très beau prix et un très beau geste que de lui remettre, et surtout une reconnaissance d'un cinéma rwandais qui lui aussi trouve son chemin, qui a du mal à exister, hein, de fait, et là je trouve que c'est vraiment un très très beau film.
Ben merci beaucoup Aubry, je suis décidément bien jaloux et bien dégoûté de ne pas l'avoir vu ce film, et en plus d'être allé à la place alors que j'avais un billet pour y aller, d'être allé voir Yesterday, The Eye Didn't Sleep. Enfin, vu, j'ai dormi pendant tout le film, et oui, je le regrette d'ailleurs. Mais soit, il faudra donc attendre février 2027 pour que le tout venant puisse rattraper Benimana en salle. Décalons à présent, loin du palais et même loin du port clinquant de Cannes, vers les rues habitées de la ville tout simplement, hors des hôtels et des boutiques de luxe, pour se rendre au Studio 13, la MJC de la ville, une salle souterraine où l'on a vu donc au Studio 13 un des films de la quinzaine des cinéastes, Je vois des immeubles tomber comme de la foudre, ou I see buildings fall like lightning, qui était le titre sur lequel il était exploité à Cannes, donc il est probable qu'on l'appelle comme ça aussi, ce sera pas par snobisme mais juste parce qu'on n'a pas pris l'habitude de le dire en français. Qui donc, en dépit de son titre, n'est pas un court-métrage, mais bien la nouvelle réalisation de la cinéaste britannique Clio Barnard, bien établie dans le monde du cinéma et de la télévision britannique, donc, qui avait laissé une forte impression à Cannes et dans le public français il y a 13 ans déjà, avec Le Géant Égoïste, adaptation contemporaine d'après un texte d'Oscar Wilde. Ici aussi, il s'agit d'une adaptation littéraire d'un livre éponyme, donc I See Buildings Fall Like Lightning, qui rend pour le coup compte, ce livre, de réalité bien contemporaine, en l'occurrence le sentiment d'absence à soi-même et de mal-être d'une génération de trentenaires, sentiment partagé dans les pays dits du Nord, mais redoublé en Grande-Bretagne d'une crise du logement extrêmement grave, entraînant la paupérisation de classes déjà pas favorisées, mais également d'une certaine classe moyenne. En effet, voilà enfin un film qui se rappelle qu'il peut parler d'autre chose que de l'art, des artistes, de lui-même, du public qu'il regarde, qu'il a un public d'ailleurs justement, et qu'il a le droit d'émouvoir plus directement que par des circonvolutions intellectualistes et satisfaites d'elles-mêmes qui peuvent être assez pénibles. C'est pas systématiquement le cas, on l'a dit dans pas mal de films dont on a parlé, mais ça peut l'être. Voilà en effet un film qui, sans prendre de risques par rapport au genre et à la culture dans lesquelles il s'inscrit de plein pied, donc le drame social réaliste britannique, fait confiance à son histoire comme à ses personnages dans leur diversité sociale et ethnique pour réussir à nous emporter totalement. Pour situer un petit peu le film avant d'en parler, tout commence à Birmingham en 2025 par une fête d'anniversaire, celle de Holly, que tous ses amis ont rejoint dans un pub slash discothèque pour boire, se droguer un peu ou beaucoup et danser sur de la très bonne musique. Nous sommes après tout en Angleterre, donc ça va de soi, mais il est vrai que la playlist de ce film est brillamment choisie et composée de morceaux excellents en eux-mêmes, mais également porteurs de ce malaise working class qui fait qu'on n'y entendra pas forcément la Britpop plus commerciale de Blur ou d'Oasis. Mais je reprends. Parmi les amis de Holly, on compte Patrick, sa copine Shiv, qui sont tous les deux parents de deux petites filles. On compte aussi Ryan et puis encore Connor. Tous ont des vies qui ne les satisfont pas franchement ou franchement pas. Patrick est livreur Uber et Shiv est mère au foyer. Ryan est trader à un immense appartement dans la City de Londres. Il est le seul à s'en être sorti en théorie, mais au fond, il est retenu par son passé, par sa vie, par son histoire à Birmingham. Holly, pour sa part, a repris l'entreprise de BTP où travaillait son père, entreprise habilement nommée Dédalus, comme pour d'emblée frapper de fatalité son ambition et annoncer les galères qu'il traversera, Dédale étant l'architecte du labyrinthe dans le mythe du Minotaure. Connor, enfin, ne fait rien ou pas grand-chose, du moins au début du film. Il vit chez sa mère et deal, surtout, en attendant que ça se passe. Les histoires intimes, les structures économiques auront très vite fait de les écraser, et comme souvent dans le cinéma britannique, l'espoir, s'il y en a, sera à trouver dans les émotions, les relations humaines et l'amour, plus que dans des institutions frappantes par leur absence dans ce film. Voilà, on ne voit aucune institution, on ne voit pas la NHS, on ne voit pas les agences de logement, etc. etc. Avant de te donner la parole, Aubry, je rajoute que ce film choral est extrêmement bien interprété par ces comédiens et comédiennes qu'on a croisés en fait dans pas mal de feuilletons ou de films britanniques ou irlandais. Il s'agit donc de Anthony Boyle, Lola Pettigrew, Joe Cole, Jay Lee Kogo et Daryl McCormack, qui sont tous, je viens de le dire, remarquables au même titre que ce film, Aubry, non ?
Complètement, ça a été pour le coup un assez gros choc pour ma part, dont on avait bien besoin. Fin de festival, comme tu l'as dit, ne serait-ce que pour diversifier le paysage de ce qu'on voyait et surtout de ce qu'on voyait et revoyait dans le cadre de la compétition. Moi, c'est un film qui m'a complètement pris, juste emporté. Et ça, des fois, ça fait du bien de le rappeler aussi, que même dans le contexte d'un festival où en fait on enchaîne les séances de façon un peu boulimique et où on essaye de, enfin comment dire, on est toujours en train d'en parler derrière, on se demande ce qu'on en a pensé, même on essaye d'avoir un peu le réflexe critique, etc. Bah ça fait du bien aussi de juste laisser un film nous rouler dessus et de sortir de la séance sans trop savoir mettre les mots dessus et de laisser son cœur battre un peu la chamade. Je trouve que, enfin moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans Je vois les immeubles tomber comme la foudre, mais qui est un truc que j'aime beaucoup dans pas mal de films, c'est l'attachement au lieu. Alors, ça tient plus au, comment dire, au roman de base de Kieran Godard, qui est originaire de Birmingham, qu'à Clio Barnard, dont c'est pas le cas. Mais je trouve qu'en tout cas, bah, étonnamment, dans son film, ça se retrouve. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a une vraie sincérité dans la manière qu'elle a de filmer cet endroit, de filmer juste ces espaces sociaux aussi. Et ça se ressent. Parce que ça fait que du coup, c'est jamais juste un décor. C'est jamais assujetti au scénario. C'est jamais assujetti au drame d'ailleurs. Hein, parce que c'est une des critiques qui a pas mal été faite au film. Ce côté, oui... Enfin, en gros, on tombe un peu dans les travers et les clichés du drame misérabiliste, social, anglais. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que je trouve que justement, notamment par cette question de l'attachement au lieu, de la sincérité avec lequel il le filme, bah, le film, il trouve un ton juste. Il passe d'un personnage à l'autre sans jamais en abandonner un seul, mais surtout, il passe d'un personnage à l'autre par leur déplacement, par exemple. C'est-à-dire que à force de voir les personnages aller au travail ou se retrouver pour faire la fête un soir... ou justement en fait, se séparer et ne plus trop se croiser, à chaque fois on passe de l'un à l'autre au moment où ils se retrouvent là-dedans en fait on se rend compte que c'est des mouvements qui tournent en rond, qui restent tout le temps dans la ville. En fait, on sort jamais de Birmingham à part au moment où on en sort, et en fait c'est, enfin comment dire, on va dire, je crois qu'il y a deux moments où on en sort pour aller à Londres, si je dis pas de conneries, et ben comme par hasard, c'est les moments où ça part un peu en vrille, mais j'en dirai pas beaucoup plus. Donc voilà, c'est très, enfin à ce moment-là, je trouve ça très signifiant, mais aussi très subtil, et je trouve que le film, en fait, perd jamais de vue son sujet. Il le prend à bras le corps avec sincérité, il le regarde pour ce qu'il est. Il cherche pas à le surréfléchir, à l'intellectualiser, à le conceptualiser plus que ça. Ce qui veut pas dire qu'il a pas de posture critique ou de trucs à dire dessus. Mais il fait ça avec le cœur, et ça, je trouve ça super fort, quoi. Et ça fait du bien, ça fait du bien.
Je suis évidemment d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Effectivement, bon, tu t'es bien. C'est effectivement très juste ce que tu dis sur l'attachement au lieu, qui est assez caractéristique hein, de ce genre de cinéma social britannique, de working class cinéma en fait, comme ils disent, que ce soit des Get Carter qui est dans le nord de l'Angleterre, mais on a aussi Trainspotting qui est pour le coup en Écosse. Il y a pas mal, on pourra même en reparler peut-être dans cette discussion, mais il y a des liens qui peuvent se faire avec Trainspotting dans ce film, en tout cas sur certains thèmes abordés, sur la manière de les aborder. Mais on a aussi Control qui est à Manchester, on a aussi Blue Jean encore récemment. Enfin bref, autant de films qui sont dans l'attachement au lieu, mais moi ce qui m'a aussi intéressé pour le coup, c'est le travail des personnages dans un autre registre. C'est-à-dire que ce que j'ai trouvé très fort dans ce film, c'est comment il fait une sorte de profession d'amour réel pour le monde, pour ces personnages qui sont là, pris dans leur faiblesse et avec leurs défauts. Alors, s'il est d'amour, en fait, il se trouve que quand j'ai préparé l'émission, j'étais en train pour mon mémoire de lire ce que André Bazin écrit du néo-réalisme et notamment de Vittorio De Sica, et il identifie vraiment ce sentiment d'amour-là qui, au fond, est assez présent dans « Je vois des immeubles tomber comme la foudre ». Dans cette espèce d'éthique de la mise en scène chez Clio Barnard, dans la peinture de ses personnages, il n'y a rien qui relève du militantisme, et en même temps, il y a clairement une critique politique des 10 années d'échec du Brexit. Parce que, en fait, c'est ça aussi qui est au cœur du film, à mon sens. Cette espèce de déclassement total du pays depuis 10 ans, depuis la sortie catastrophique de l'Union européenne. Et le film ne professe rien, en fait. Aucun des personnages n'évoque jamais distinctement aucun parti, quand même peut-être que certains votent d'ailleurs Reform UK. Hein. Mais les choses... Ici, elles affleurent très simplement, de manière très évidente, mais pas moins forte pour autant. Et typiquement, pour prendre un exemple et préciser un peu ce que je dis, quand on apprend à un moment que Patrick, donc qui est livreur Uber, il a été à l'université pendant un temps, qu'il a fait des études longues, bah c'est hyper violent parce qu'on ne sait pas où ni comment ça a merdé. Et il est voilà, diplômé et très bien diplômé, mais il se fait chier dessus par les gens à qui il livre ses commandes. Et en fait, ce tout petit détail qui est glissé au détour d'une phrase quand ils évoquent un passé commun, parce qu'il y a un travail vraiment d'écriture des personnages et qui n'existe pas à partir du début du film et qui ont existé avant, etc. En fait, qui est assez hyper violent, hyper bouleversant. Et moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est la façon dont c'est extrêmement peu démonstratif dans son écriture comme dans sa mise en scène, en dépit de ce qui a pu lui être reproché, comme tu l'as dit, Aubry. Et les moments les plus entre guillemets didactiques, hein, comme qui dirait, je trouve qu'ils sont élégamment contrebalancés par le contexte. Si je reprends un autre exemple, à un moment, il y a une discussion sur le capitalisme qui explique toutes les mécaniques de la crise du logement qui empoisonne la vie britannique. Et là, si je vous dis il y a une discussion sur le capitalisme, ça va peut-être vous rappeler quelque chose si vous avez écouté l'épisode 7 du comptoir du festival. Vous savez que dans Soudain, Ryusuke Hamaguchi fait la même chose avec cette fois-ci deux personnages féminins, c'est des garçons, dans le film de Cléo Bernard, qui discutent la nuit du capitalisme. Et ben là, je trouve que c'est mieux. C'est mieux parce qu'en fait, on a ce truc, on a ces deux potes, un qui est en mode gros goumin, un gros chagrin d'amour, ils sont bourrés, ils sont dans une chambre d'hôtel. Et celui qui est malheureux, Ryan, demande à Patrick de raconter son mémoire sur la financiarisation des logements sociaux parce que juste il a envie de parler, il n'a pas envie de se retrouver tout seul. Il lui dit et c'est simple, mais c'est vraiment très beau. Il n'y a pas ce côté presque factice qu'on avait chez Hamaguchi, dont on avait parlé avec Claire. Et voilà, et c'est vraiment très beau. De même que la relation de Ryan à Londres, elle périclite à un moment, au fond, pour des enjeux de classe. Et c'est ça qui, aussi par rapport au Hamaguchi, est intéressant, c'est que le film ne vise pas à être une démonstration de marxisme, ce qui rapproche encore une fois du néo-réalisme de la fin de la guerre seconde guerre mondiale. Il ne vise pas à être ça, quoique certains critiques de gauche aient pu lui reprocher de vouloir en être une, et en plus de ça, de la rater.
Mais oui, je suis complètement d'accord sur l'intérêt du film vis-à-vis du contexte qui travaille, de son sujet, de son scénario et de ses personnages, parce que en fait, quand tu dis que, par exemple, le personnage de Patrick, on apprend au détour d'un dialogue comme ça, mais de façon très anecdotique, le film ne se concentre pas dessus, bah, qu'effectivement, il a fait des études et qu'en gros, il a subi une forme de déclassement. En fait, par exemple, ça, ce n'est pas du tout traité sur un mode tragique ou quoi, et c'est vraiment juste traité comme c'est comme ça, c'est la vie, et même le personnage en fait s'y accroche pas forcément. Et justement, moi ce que je trouve beau dans le film de Bernard, c'est la manière qu'elle a de pas s'apitoyer sur ses personnages et juste en gros de mettre au jour les trucs simples qui en fait font leur bonheur. Et ça peut paraître un peu bête dit comme ça, mais en fait ces trucs ils sont pas si visibles et évidents que ça, ou alors ils sont tellement évidents qu'on n'y pense plus et que du coup ils deviennent invisibles. Comment dire, en gros c'est une bande de potes qui ont grandi tous ensemble dans la même ville, les mêmes quartiers, qui ont fréquenté les mêmes endroits, et qui en fait par la force des choses se retrouvent à tous être encore bloqués là, sauf Ryan, mais c'est un peu particulier, des dizaines d'années plus tard, quand ils sont jeunes adultes, vingtenaires, trentenaires. Et en fait le truc qui reste à ce moment-là, c'est leur lien entre eux, leur lien d'amitié. Et cette amitié-là, elle est absolument impossible elle est inséparable du lieu. C'est-à-dire que c'est précisément parce qu'ils ont grandi ensemble à cet endroit-là et qu'ils y sont encore maintenant que cette espèce de lien persiste. Et je sais pas, moi le film en fait m'a parlé, vraiment m'a touché, très 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 personnel, parce que quand tu grandis dans un quartier comme ça et qu'en fait même juste que tu grandis avec un groupe d'amis par exemple, et que le groupe se structure aussi par la manière qu'il a d'habiter ce lieu-là et d'y rester pendant des années et des années, et bah derrière, quand il... ne serait-ce que quand il revient, mais alors du coup d'autant plus quand tu y es encore, bah c'est ça qui fait durer le truc aussi. Et c'est pour ça que je trouve que le titre est très beau, et alors bon, il a un côté un peu impressionnant, très poétique et tout, alors qu'au final, les fameux immeubles qui tombent, c'est des petites images d'archives qu'on voit pas tant que ça finalement dans le film, hein, c'est très ponctuel, et bien c'est des très beaux moments, parce que justement, vu que Bernard, elle insiste pas là-dessus, c'est juste par, comme tu l'as dit, le contexte, les dialogues, les micro-événements qui se produisent tout le temps dans le film, que ce contexte-là, il finit par infuser, et qu'en fait, on a le, entre guillemets, le vrai élément tragique du film, à savoir que la destruction de cet espace-là, de ce lieu-là, qui passe par la destruction de l'habitat, donc la destruction des logements, ça détruit derrière en répercussion les liens entre personnages, ou en tout cas ça les met à mal, ça met les personnages en crise, et je trouve que le film le fait brillamment, avec beaucoup de beauté, beaucoup de tendresse aussi, donc voilà.
Tu dis tendre, c'est le mot, parce que moi je pense aussi, parmi les choses que j'ai gardées du film, c'est, comment dire, y a un truc sur les conneries qu'on peut dire et regretter, les erreurs, les pardonner, et c'est là aussi qu'il y a la tendresse ou l'amour de la réalisatrice, et de pas céder non plus au pessimisme, en fait, malgré alors un désespoir évident, ou au moins une nette absence d'espoir de ces jeunes trentenaires dans le vent qui vivent en fait moins bien que leurs parents, tout simplement. Et cela étant, le film ne verse donc c'est ça, pas dans un idéalisme qui est plus d'actualité comme d'autres, avec certains plans très marquants et particulièrement violents. En fait, moi, je pense à un plan vers la fin. Tu parlais des lieux, un des lieux phares et de retourner en boucle, c'est le chantier d'une nouvelle tour qui est censée représenter ce logement social qu'on veut construire, cette utopie d'un logement social, quoi, et de retrouver un logement abordable au Royaume-Uni. Et donc, vers la fin, dans un contexte assez dramatique que je ne vais pas développer, mais il y a un plan sur le chantier vide de nuit. C'est un plan particulièrement symbolique, un peu appuyé, hein, si l'on veut, mais qui est monté, qui est filmé avec une vraie force, avec un travail sur le son qui m'avait impressionné. Mais en plus de ça, des plans dans ce genre et d'un vrai ancrage dans la réalité, comme pour contrebalancer, faire survenir une certaine douceur, Clio Barnard ajoute des éléments qui font signe vers une sorte d'univers cinématographique néo-réaliste, comme avec la chienne Lola, il me semble que c'est Connor qui l'adopte, ou bien une séquence avec une petite fille à un moment qui paraît presque too much si elle s'inscrivait pas dans la dynamique du film, qui est en fait de se déporter vers une idée de soin, d'attention portée à la vulnérabilité des créatures et du monde, et ça elle le fait, voilà, par l'amour, par l'amitié, et voilà, c'est-à-dire que c'est aussi des directions émotionnelles que le film prend et qui contrebalancent à côté. Par exemple, c'est un film très masculin, très très bien porté, très très bien écrite, voilà, qui donne lieu à une scène d'amitié vers la fin qui est franchement magnifique, qui croise, je disais, un peu Trainspotting dans certaines dynamiques. Et d'ailleurs, comme le film de Danny Boyle, il ne romantise pas non plus l'usage et l'abus de substances. Et voilà, tous ces personnages sont très bien écrits, ils sont chacun sur des trajectoires différentes qui auraient pu d'ailleurs être portées dans une série. Il y a une écriture télévisuelle du film, au meilleur sens du terme. C'est pas souvent quelque chose qui est dit dans un contexte positif en critique de cinéma, mais là, dans le sens britannique, du feuilleton réussi au personnage très attachant qu'on a envie de suivre sur le long temps. En somme, et moi je m'arrêterai là, c'est vraiment très bien, très beau, très touchant, et il y a quelque chose sur les relations familiales, amicales ou autres qui sont purement parfaites.
Et pour compléter et conclure, je dirais que même, tu mentionnais ce plan du chantier vide vers la fin, même la toute fin, pour le coup, que je dévoilerai pas, comment dire, qui fait des appels du pied à un de mes films préférés. Bon, là, il faudra fouiller dans les anciennes émissions pour retrouver ça. Mais si, quand vous verrez le film de Barnard, vous comprendrez, si vous avez vu l'autre film, Indice, c'est un film de Cimino. On va dire qu'il y a un personnage qui se fond littéralement dans le lieu. Et je pense que ça dit tout du film, et je trouve ça assez extraordinaire. Même si là encore, la scène pourrait paraître un peu appuyée au premier abord, je trouve qu'elle ne l'est pas du tout. C'est fait avec beaucoup de subtilité, beaucoup de beauté. Et même juste sur le traitement de ces conditions sociales-là, de ces espaces, etc., là où le film n'est pas misérabiliste, c'est qu'en fait, il ne filme pas spécialement ça comme quelque chose d'horrible, de sordide ou quoi. Alors, il y a des trucs qui le sont un peu, les personnages sont dans des difficultés évidentes et tout, mais en fait, on voit surtout des personnages relativement heureux, pas parce que, enfin, pas du coup, comme le ferait un film de droite, en fait, en nous montrant des personnages qui sont heureux de leur malheur et heureux de leurs conditions complètement, enfin, dégradées de vie. Non, au contraire, en fait, le film nous montre les personnages heureux, justement, parce qu'il arrive à avoir un regard assez subtil et une tendresse assez subtile pour ne pas mépriser ce qu'ont ces personnages et du coup ce à quoi ils se rattachent et ce qui fait leur bonheur. C'est-à-dire que, concrètement, ça revient à montrer que, bah oui, des fois ils manquent de fric, que des fois leurs conditions de vie sont un peu touchy, leurs conditions de travail aussi, mais qu'en fait, ça s'attache aussi à des rêves et des espoirs sincères. Par exemple, Oli qui du coup bosse sur le chantier. Il y a tout un truc de, il a un gosse à élever en même temps, c'est compliqué à gérer, le chantier a du mal à avancer, il trouve pas les financements, et en même temps, bah en fait, et puis même, enfin je veux dire, il est lui complètement conscient des mécaniques d'exploitation dans lesquelles il se trouve et auxquelles il, enfin qui reconduit et qui auquel il obéit. Pourtant, là-dedans, ce que Barnard met en scène et ce que le bouquin peut-être dit déjà aussi, c'est que c'est aussi un personnage qui fait ça parce qu'il est attaché à ce lieu-là, parce qu'il est attaché aux gens qui l'habitent et parce qu'il est attaché au fait d'habiter ce lieu-là et que ça a une importance pour lui. Et c'est ça que je veux dire, enfin, en disant que le film n'est pas misérabiliste et qu'il trouve cette subtilité-là, c'est justement qu'en fait, il ne fiche pas les choses. Du coup, ça lui permet de ne jamais trop appuyer son regard, de trop caricaturer ce qu'il représente. Il montre ça, oui, comme des conditions de vie compliquées, des conditions sociales, même aliénantes, hein, une espèce d'impasse du capitalisme. Et en même temps, bah, le film, il est très conscient d'une chose, c'est qu'il y a des personnes, enfin des gens juste dont s'inspire le film qui vivent là-dedans, et que ces gens-là, ils sont pas forcément déprimés, mais ils ont aussi ils arrivent aussi à se fabriquer des éléments de bonheur et tout. Et c'est ce que le film travail à mettre en scène. Et je trouve ça très très beau. Donc voilà.
Merci beaucoup, Aubry. Je vois des immeubles tomber comme la foudre. I see buildings fall like lightning. C'est l'une des grosses recommandations du comptoir du festival après Cannes 2026. Et ça sortira en France le 16 décembre prochain. Peut-être sera-ce chroniqué d'ailleurs dans la saison 4 de cette émission. On avance à présent avec un petit mot que je voulais dire d'un film présenté pour le coup à la semaine de la critique, que je suis allé voir un peu par hasard alors qu'Aubry et Claire étaient restés à l'appart un beau matin, sans film ni billetterie, ils avaient bien de la chance. Signé du réalisateur franco-irlandais Alexander Murphy, Irish Travellers est un documentaire suivant la vie de la famille O'Reilly, Pat, Lisa et leurs 10 enfants, oui 10, vivant dans une caravane sur une route anonyme d'Irlande selon le mode de vie traditionnel et en voie de disparition des Irish Travellers, donc des voyageurs irlandais, communauté alternative et nomade autochtone irlandaise. Le film, en dépit de son titre français, n'a néanmoins aucune intention didactique ou pédagogique et ne vise pas à nous faire un cours sur le sujet. Son titre original, Tin Castle, donc Château de Fer Blanc si l'on traduit, est plus fidèle à ce qu'est vraiment ce documentaire, une sorte d'exploration filmique, ludique du quotidien des O'Reilly, saisie sur une temporalité discontinue, voire décousue, et selon une méthodologie assez souple, ou suffisamment en tout cas pour ne pas qu'en émerge de discours précis sur ce mode de vie comme un idéal à suivre. Voyez, en somme, il n'en va pas de la représentation d'une utopie au sens vraiment philosophique du genre, soit donc de la description d'un lieu imaginaire accompagné d'un discours théorique plus totalisant. En outre, le choix de saisir cette vie par fragments, quoiqu'il puisse aussi être interrogé, puisque cela ne brise jamais totalement la dynamique ethnographique du film, hein, consciente ou non, permet aussi à Alexander Murphy de garder une pudeur dans son approche et de faire passer 6 mois, par exemple, à la faveur d'un changement de chapitre, puisque le film est organisé en 5-6 chapitres, je ne sais plus. Et notamment, donc, ça lui permet aussi de ne pas trop s'apesantir sur la douleur et les problèmes de la famille quand Pat, le père, donc, est envoyé en prison pendant ces 6 mois, pour des motifs d'ailleurs jamais clair, qui ne nous seront pas expliqués. Le sujet n'est donc ni un cours, ni une utopie, ni une incursion dans l'intimité des gens. Tant mieux d'ailleurs, hein, parce qu'il y a toujours cette gêne dans le documentaire de festival de présenter à des festivaliers des populations plus défavorisées, voire paupérisées, qu'ils ne le sont et qu'elles ne le sont, pendant 1h40, puis de les laisser retourner à leur vie de festivalier et de festivalière. Cela étant, et pour être honnête, il serait inexact d'affirmer que le film ne cède à aucun biais esthétisant. Il se le permet plus d'une fois, notamment avec plusieurs passages musicaux qui profitent bien du lien profond des Travelers à la nature et à leurs chevaux pour les englober tout ensemble par une variation, d'ailleurs très belle, sur le magnifique thème du trio opus 100 de Schubert, celui de Barry Lyndon. Et puis d'ailleurs, on l'entend à la fin, et tout ça nimble tout d'une atmosphère un peu irréelle, un peu cotonneuse. Et puis même à d'autres moments, on est un peu mis mal à l'aise par certaines séquences, comme celle de la visite d'une maison témoin d'un lotissement pavillonnaire, puisqu'ils envisagent d'emménager, donc de se sédentariser, et ça paraît reposer sur des biais quasi comiques. Voilà, il faut imaginer une scène dans un contexte français où un documentariste ferait visiter un lotissement de ce genre à une famille gitane. Donc. En somme, le film souffre d'un léger manque de réflexivité qui lui donne par exemple toute sa place à la Semaine de la Critique et à Cannes en général, mais aurait posé plus de problèmes au festival Cinéma du Réel à Paris, qui a lieu en mars par exemple, ou au FID à Marseille. Cela étant, cette approche plus ou moins arty du sujet, qui ne cherche pas à aborder de front les enjeux politiques des Irish Travelers, l'ostracisme dont ces familles sont les victimes, mais également certaines pratiques marquées du sceau de la tradition et qui n'en sont pas moins discutables, comme des mariages prématurés, l'approche de la religion, ou bien le surmaquillage des petites filles à la limite de la sexualisation à l'occasion de fêtes familiales. Une approche plus artistique, décontextualisée et non située, a pour elle de ne pas se prendre les pieds dans le tapis d'un discours parfois tout ce qui est plus louable, mais tout aussi encombrant. Et c'était le cas, par exemple, pour un film présenté au Cinéma du Réel, justement, en 2025, « Les habitants ». Dans ce documentaire-là, Maureen Fazendeiro, la réalisatrice, filmait les lieux de sa banlieue pavillonnaire francilienne, occupée quelques mois plus tôt par des migrants en situation irrégulière, tout en lisant les lettres que sa mère lui avait écrites à l'époque, et qui lui décrivaient la situation, l'aide qu'elle apportait à ces personnes, etc. Mais bon, dans le film de Maureen Fazendeiro, on ne voyait pas donc les migrants ou migrantes, on entendait que la réalisatrice, qui n'était pas là quand il se trouvait ici, ce qui produisait quelque chose de bien gênant, où l'on finissait par complètement passer à côté du sujet sans jamais faire quelque chose du lieu qui était filmé. Rien de tel ici, et c'est d'ailleurs ce pourquoi il fallait en parler et sans doute le voir quand il sortira, quand même il n'a pas encore de date de distribution et qu'il sera sûrement confiné, borné à quelques petites salles, espérons-le, à Lyon quand même. Parce que Alexander Murphy fait bien quelque chose de son espace, il l'habite, et si la mise en scène aurait gagné à se trouver partagée avec la famille elle-même, en leur déléguant peut-être ici ou là la caméra, il arrive, le réalisateur, à se faire oublier en les suivant l'immense majorité du temps avec respect, avec intérêt, et surtout à exploiter toutes les potentialités cinématographiques de ce château de fer blanc dont il est presque impossible de faire une cartographie mentale, tant il arrive à continuellement inventer de nouveaux cadres, la caméra à l'épaule aidant à cela notamment. La famille, si singulière, est évidemment particulièrement attachante, et notamment par ses enfants, dont la spontanéité, les regards caméra et les exclamations sans filtre, parfois vulgaires mais drôlement vulgaires, sont en eux-mêmes des personnages très réjouissants et qui semblent donner le plus sa liberté au film. C'est en les suivant dans leurs jeux de cache-cache, dans leurs discussions absurdes, que la caméra n'embarrasse pas, là où il est toujours un peu plus dur d'oublier la caméra ailleurs, y compris chez les adolescents. Voir en fait ces enfants, ils sont rendus plus enthousiastes par la caméra et ils échangent par une espèce de communication non verbale propre à l'enfance avec eux, avec la caméra, par des sourires, des jeux de mains, etc. C'est là que le film est le plus beau, qu'il est le plus fort et que moi, il m'a le plus emporté, pour reprendre le terme de Ava Cahen, la déléguée générale de la Semaine de la Critique, quand elle a présenté le film. C'est quand ce château de fer blanc devient effectivement un royaume des enfants plus que des adultes ou des adolescents qui nous importent moins. Et peut-être que le film aurait gagné à s'engouffrer dans cette brèche dont on n'aura guère que l'intuition. Et c'est dommage, il aurait également gagné à affirmer plus franchement cette idée d'un monde radicalement différent de celui des adultes, monde qui n'est pas, dans une perspective psychologique, une création de l'inconscient enfantin, mais plutôt un monde du réemploi, du recyclage des choses adultes dans les marges occupées par cette communauté, et donc qui arrive à créer cet univers enfantin avec des lois différentes des nôtres qui régissent pourtant les mêmes objets que les nôtres. Ici, peut-être qu'il y aurait eu un peu plus de cinéma, un peu plus d'intérêt dans Irish Travelers, que pourtant je vous recommande et qui est une de ces petites découvertes de Cannes assez mineures, mais que je suis plus heureux d'avoir vu que certains films beaucoup plus commentés de la compétition. Et pour boucler la boucle, retour au Festival de Cannes à proprement parler, avec Un Certain Regard, qui est une des sélections du festival, donc curatée par Frémaux et ses équipes. Retour à Un Certain Regard avec une seconde chronique signée par toi, Aubry. Tu veux nous parler d'un film que tu as vu en début de festival, là encore en première mondiale, et pour le coup carrément enthousiasmant, non ?
Oui, encore de l'enthousiasme, toujours de l'enthousiasme, c'est décidément l'émission du kiff alternatif, puisque je vais vous parler de Congo Boy de Rafiki Fariala, qui est un premier long métrage de fiction de son réalisateur, Rafiki Fariala donc, et qui était présenté en début de festival en sélection Un Certain Regard, comme tu l'as dit, sous les applaudissements de la salle de Bussy. Né en République démocratique du Congo, avant de fuir la guerre pour la République centrafricaine, Fariala a commencé dans l'industrie de la musique d'abord, avant de signer plusieurs courts-métrages documentaires récemment, puis un long, Nous étudiants, primé au cinéma du réel en 2022 et premier film centrafricain de l'histoire de la Berlinale quelques mois plus tard. Congo Boy, bah c'est un film plus singulier qu'il n'y paraît, car sous l'apparence d'un récit d'ascension sociale assez classique et plutôt convenu parce qu'il passe par l'art, se cache en fait un film quasi autobiographique. Genre on va dire là aussi convenu, mais qui va se révéler étonnant à plus d'un titre, et je vous expliquerai pourquoi. C'est l'histoire d'un adolescent, Robert, interprété par le formidable Bradley Fiomona, qui a fui la République démocratique du Congo donc, et la guerre avec ses parents et ses quatre petits frères et sœurs pour s'installer en Centrafrique, à Bangui, dans la capitale. Sauf que voilà, ses deux parents, bah, ils sont emprisonnés et ils attendent désespérément de pouvoir bénéficier de la nationalité centrafricaine. Et Robert et ses frères et sœurs, bah, en attendant, ils sont hébergés, pour ne pas dire exploités, par un gradé militaire du coin. Dans tout ça, et au milieu d'une guerre civile, Robert, il tente de passer son bac et de gagner de l'argent pour, parce que du coup, les droits d'inscription au bac sont bien plus élevés pour ceux qui n'ont pas la nationalité. Mais aussi, bah, il essaye de trouver sa voix et sa place dans ce qu'il passionne, à savoir la musique et la chanson. Et cette histoire, bien racontée, bien mise en scène, avec ses moments de bravoure, on peut pas la cantonner à la simplicité ou à la banalité de sa forme et de ses ressorts. Pour deux raisons. D'abord parce que bah, c'est pour beaucoup l'histoire de Rafiki Fariala lui-même. Ensuite, parce qu'on peut aussi s'autoriser à un jeune cinéaste et à un cinéma qui tente tant bien que mal de faire sa place dans un pays en guerre, d'inventer leur propre forme à leur propre rythme. Dit autrement, c'est pas tant une question d'attente que de temporalité et de contexte. Fariala vient du documentaire, il fait partie d'une génération de 10 jeunes réalisateurs centrafricains et centrafricaines à avoir été formés dans les années 2010 par les ateliers Varan de Bangui. Et si dans ce cadre, son besoin de cinéma de fiction le ramène en premier lieu bah, à sa propre histoire et à des formes canoniques, pourquoi on le lui reprocherait ? Car on peut critiquer le film pour son classicisme et sa platitude sans tenir compte des lieux, des personnes, des espaces et des histoires sur lesquels il s'appuie. Déplacer ces motifs éculés dans la capitale en guerre de la Centrafrique, c'est déjà un pas de côté par rapport au classicisme, et c'est là que le film tire son épingle du jeu. En tout cas, moi, je trouve qu'il le fait à cet endroit-là. C'est dans cette manière, précisément, de mettre les canevas esthétiques et narratifs occidentaux bien connus à l'épreuve de cet autre espace. C'est sa manière de ramener au sol la success story, de la confronter à une forte matérialité, mine de rien. Il faut voir les scènes où Robert rentre de nuit, se fond dans les ombres en rasant les murs, et où l'espace se construit par le son des balles et des tirs. Voir aussi la façon dont les difficultés administratives qu'il rencontre se multiplient et s'imbriquent, mais toujours exprimées par l'espace, par des trajets, des distances, des routes barrées, un peu à la manière d'un film de Sam Ben comme Borom Saret ou Le Mandat. Et dans tout ça, voir comment ce même canevas narratif tient comme un fil alors que tout s'effondre autour. Les autorités militaires en place sont renversées par les forces rebelles. Robert et ses sœurs se retrouvent livrés à eux-mêmes, à savoir sans existence officielle et administrative, ni même juridique, cachant leur identité pour survivre et dépourvus de quelconque attache. Et dans tout ça, le film s'envole dans ses séquences musicales, lorsqu'au cœur de la nuit interlope de Bangui, Robert entre sur scène et devient alors Congo Boy, son nom de scène, et conquiert la foule en revenant justement à son identité, à ses origines. C'est là que le film s'échappe de son carcan et qu'au fond, Fariala est le plus engagé dans sa mise en scène, peut-être car au plus proche de la musique, son art des débuts. Des séquences de concerts purement dédiées à l'épuisement des formes qui les entourent, à faire table rase du scénario, des séquences dont l'importance écrase le reste pour mieux devenir un nouveau point de départ. Et à la différence des mêmes séquences prises dans la machinerie hollywoodienne et les biopics, par exemple, où l'image n'est alors que la copie mortifère d'images réelles de concerts, la reproduction voulue revivifiante d'une réalité déjà évanouie, en somme, Les séquences de Congo Boy, au contraire, elles ont pour elles leur originalité, à savoir les chansons qui sont celles de Fariala lui-même, qui ne sont pas connues, qui n'ont pas de fantômes à pourchasser, c'est tout bête. Et pour tout ça, malgré toutes ces convenances, le film il emporte par sa fraîcheur, par sa force, par même juste sa confiance en lui-même quelque part, celle d'une création bien effective à l'écran et derrière dans l'élaboration du film. Un trait commun à beaucoup de premiers films ou de premiers longs, qui ne nous fera pas crier au chef-d'œuvre, mais nous invite au contraire à suivre avec intérêt, beaucoup d'intérêt même, les prochains projets de son auteur. En somme, on ne peut pas appliquer la grille de lecture, la même grille de lecture qu'on appliquerait à un énième film occidental sur le sujet, qui ressasserait en fait tous les schémas et clichés que je viens d'énumérer. On ne peut pas appliquer cette grille de lecture-là à un film comme Congo Boy. Et ce n'est pas une manière d'infantiliser le cinéma centrafricain ou congolais que de dire ça, non. C'est une manière aussi de juste respecter les propositions de ces auteurs et autrices et en fait d'éviter d'attendre à la fois d'un cinéma, comme je l'ai dit, qui est jeune dans le sens où qui commence à se trouver, et d'un réalisateur qui lui-même est très jeune, hein, enfin il a à peine 30 ans je crois, ou un truc comme ça, d'attendre qui pose des films comme si ces derniers étaient témoins de 100 ans d'histoire du cinéma derrière, ce serait absurde. Et donc du coup, pour toutes ces raisons-là, je trouve qu'en fait, en ayant tout ça en tête, Congo Boy, c'est un film qui s'apprécie tout seul, qui fonctionne vraiment bien, et ouais, qui donne envie de voir la suite du travail de Fariala avec beaucoup d'intérêt.
Et merci Aubry, Congo Boy, ça sortira en salle également à l'hiver, ou quasi à l'hiver, le 25 novembre. Prochain, sur ces belles paroles, c'est la fin de ce 10e épisode du comptoir du festival consacré à Un certain regard, la quinzaine des cinéastes et la semaine de la critique. Merci Aubry, merci beaucoup Asmila, Élise et Corentin qui nous ont permis pour Transistor de couvrir et d'assister à ce festival. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve dans 3 jours pour un prochain numéro du comptoir du festival. Toujours sans clair, puisqu'on parlera de films qu'on a vus aussi à la fin du festival, où on retournera néanmoins du côté de la compétition en se posant cette question: le cinéma d'histoire a-t-il encore du sens? Et on tâchera d'y répondre comme on pourra, aider ou non de 2 films vus dans les derniers jours du festival. Donc restez branchés Transistor, car ce sera bien évidemment disponible sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien et partagez-nous. Vive le cinéma et vive Transistor.